Deutsche Welle. Droits et libertés.
Est-ce que vous allez le remarquer ou est-ce qu'il vaut mieux vous le signaler en amont? Bon allez, je vous préviens cette semaine, dans cette émission, vous n'entendrez que des voix de femmes. Ça tombe bien parce que nous parlons justement de femmes. D'une ex-mannequin guinéenne qui a délaissé les podiums pour se lancer dans l'exploitation minière. Et puis aussi de l'égalité des sexes en 2017 en Allemagne. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Peut-être que vous connaissez son visage, souriant, tantôt aux cheveux longs, tantôt aux cheveux courts. Tigi Danke Camara a longtemps travaillé comme mannequin, mais désormais en Guinée, ses concitoyens la connaissent surtout pour son entreprise. Tigi Camara s'est en effet lancée à l'assaut d'un domaine jusque-là réservé aux hommes, la mine, et son entreprise exploite désormais l'or et le diamant.
While I used to model,
en tant que mannequin, j'ai fait de la pub pour plein de produits différents, des habits, des bijoux. Et puis un jour, j'ai eu un déclic et je me suis rendu compte que beaucoup de ces bijoux et des matières premières utilisées dans la mode provenaient d'Afrique de l'Ouest, et notamment de Guinée où notre sous-sol est très riche. Alors je me suis dit que le secteur minier pouvait être capital pour le développement. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes dans cette branche. Et celles qui y travaillaient n'étaient même pas vraiment prises en compte.
Tigi Camara a voulu changer les choses. Elle a pris rendez-vous avec des géologues, des ingénieurs. Elle a visité des mines d'or et de diamants, histoire de tout savoir sur leur paillage et l'exploitation minière.
Au début, c'était difficile. Beaucoup de gens ne me prenaient pas au sérieux comme femme d'affaires parce que j'étais estampillée mannequin et mode. Mais le plus dur, ça a été de financer les premiers projets. La Guinée se trouvait plongée dans une crise politique. Et quand cette crise s'est terminée, le pays a été frappé par une épidémie d'Ebola.
Mais Tigi Camara a désormais passé son baptême du feu. En 2010, quand elle s'est lancée dans l'aventure minière, on lui demandait encore souvent de qui elle était la secrétaire. Épisode machiste, comme toutes les femmes en ont vécu au moins une fois dans leur vie, aucun des hommes qui se croyaient si importants n'avait imaginé que cette femme pouvait être la patronne. Or, elle détient 100% des parts de Tigi Mining et possède de nombreuses concessions minières, à telle enseigne que la revue Jeune Afrique a classé Tigi Camara parmi les 50 femmes chefs d'entreprise les plus influentes d'Afrique francophone. Avec son entreprise, Tigi Camara a créé plusieurs centaines d'emplois et essayé de modifier un peu les pratiques commerciales dans ce secteur d'activité plutôt délicat.
Pendant longtemps, on a eu ici le problème des diamants de sang, ces pierres dont le commerce sert à financer des guerres civiles en Afrique et ailleurs. Mais nous respectons à la lettre le processus de Kimberley qui permet de mieux contrôler l'industrie du diamant.
Pour rappel, Kimberley, c'est l'endroit en Afrique du Sud où cette initiative a vu le jour en 2003, après des années de négociations entre des ONG, des industries, des États producteurs et des États acheteurs de diamants. Bref, avec tous les maillons de la chaîne de production. Un système de certification des diamants a été élaboré pour permettre leur traçabilité de la mine d'extraction à la bijouterie. Tigi Camara sait bien que ce processus est loin d'être parfait, d'autant que les sommes en jeu dans le commerce des diamants, des pierres précieuses et des terres rares sont immenses, ce qui attire les convoitises et encourage les malversations en tout genre, comme la corruption ou l'exploitation d'êtres humains dans les mines.
I'm a daughter of Africa.
Je suis une fille de l'Afrique. Bien sûr que je suis là pour faire du commerce, mais je veux aussi que mon continent s'en sorte. Je veux aider à cela et lui rendre un peu de ce qu'il m'a donné.
Tigi Camara a obtenu l'année dernière une licence d'exploitation pour une mine d'or en Côte d'Ivoire. Là-bas, le travail est fait par une coopérative de femmes. Cette Cette semaine se tenait le Women 20 à Berlin, une rencontre en amont du G20 destinée à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes dans le monde de l'entreprise. C'est donc l'occasion pour nous de faire le point sur les droits des femmes en Allemagne. Elles peuvent voter depuis presque un siècle, mais de nombreuses inégalités persistent. Noémie Miro, bonjour.
Bonjour.
Alors vous vous êtes intéressée justement à cette question du statut de la femme en Allemagne. Racontez-nous tout.
Effectivement, et durant la Première Guerre mondiale, les femmes allemandes ont remplacé les hommes qui étaient au front et assument leurs responsabilités dans les champs et dans les usines. Ceci a permis de reconnaître le rôle que les femmes pouvaient jouer au sein de la société et a conduit, sans doute, à ce que les femmes obtiennent le droit de vote dès 1919. Emmeline Fourmand est doctorante au centre Marc Bloch de Berlin et à Sciences Po Paris. Elle s'est spécialisée dans l'étude des mouvements féministes en Allemagne et selon elle, ce n'est pas uniquement la guerre qui a permis aux femmes de se faire une place dans la société allemande.
La particularité de l'Allemagne, c'est d'avoir une discussion sur les droits des femmes bien avant la guerre, donc à la fin du 19e siècle, ce qu'on appelle la Frauenfrage, donc la question de la femme. Ça, c'était le titre qu'on donnait à ces le nom qu'on donnait à ces débats. Et donc, je dirais que on ne peut pas considérer que c'est la guerre toute seule qui a donné le droit de vote aux femmes, mais que ça a été une suite consécutive de plusieurs choses qui ont été à la fois ce grand débat qu'il y a eu politique où les femmes ont pleinement participé, où il y a eu une lutte de ce qu'on appelle la première vague féministe pour le droit de vote, mais aussi pour d'autres questions. On a déjà à ce moment-là des revendications pour l'avortement dans le mouvement des femmes allemandes de cette période. C'est un peu une petite particularité.
Les premières luttes féministes, souvent portées par la bourgeoisie, ont pris la forme de manifestations, de campagnes, de sensibilisation auprès des femmes et des hommes. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est coupée en deux. De chaque côté du rideau de fer, la condition des femmes évolue. Pas forcément dans la même direction. En RDA, c'est-à-dire en Allemagne de l'Est, la majorité des femmes travaillent. Elles disposent donc d'une certaine autonomie financière. À l'Ouest, en RFA, elles sont encouragées à rester au foyer.
La pression qui pèse sur les femmes pour qu'elles restent à la maison est très importante. Il y a un mot pour les femmes qui mettent leurs enfants en garde trop tôt. C'est « mère corbeau », les « Rabenmutter ». Et c'est un mot qu'on entend encore. Et tout comme il y a une pression sur les femmes pour qu'elles allaitent, qui est présente jusque dans les mouvements de gauche, donc dans les mouvements qui sont les plus progressistes. Donc j'ai fait des entretiens avec des femmes qui me racontaient comment elles se faisaient critiquer par les personnes avec qui elles militaient parce qu'elles n'allaitaient pas. Donc il y a toute une place qui est donnée à la maternité qui bloque en partie l'égalité entre les hommes et les femmes.
En 1960, à l'Est, 25% des étudiants sont des femmes, un peu plus à l'Ouest. Mais dans les années 1980, la RDA arrive à la parité entre les sexes à l'université, alors qu'il y a une majorité d'étudiants hommes à l'Ouest à la même époque. Dans les années 1970, l'un des thèmes autour desquels la lutte pour le droit des femmes s'est cristallisée, c'est le droit à l'avortement. L'IVG n'a pas été totalement dépénalisée en Allemagne, on peut avorter jusqu'à la 12e semaine de grossesse, sous condition notamment d'être conseillé. Ce droit a été acquis en 1974, il est en deçà des espoirs des féministes.
L'Allemagne a été réunifiée en 1990. Depuis, les inégalités hommes-femmes se sont peu à peu réduites. À l'université, par exemple, il y a désormais autant d'étudiants que d'étudiantes. La loi fondamentale de l'Allemagne réunifiée garantit aussi l'égalité entre les sexes. Mais ça, c'est ce qui est écrit sur le papier.
Certes, la chancelière est une femme. Angela Merkel est la personnalité qui a le plus de pouvoir politique en Allemagne. Mais les femmes ne représentent toujours qu'un tiers des députés. Et d'autres disparités persistent. Sur le marché du travail, les femmes sont plus touchées par le chômage. Selon une étude de 2013 de l'Institut de recherche économique de Cologne, les femmes gagnent 6,6% de moins que les hommes à poste égal. Une différence qui pourrait paraître minime si les femmes occupaient les mêmes postes que les hommes. Car les emplois sont souvent à temps partiel ou à faible responsabilité. Selon Emmeline Fourmand, elle reste largement affectée au foyer et aux enfants.
On a eu une étude sociologique qui est vraiment très intéressante, qui a été faite sur les couples dans lesquels les femmes gagnent plus que les hommes. Donc, elles travaillent à temps plein. Ça a été mené par Sarah Speck et Cornelia Köpetsch. Et elles ont montré que même dans ces couples, les tâches domestiques sont majoritairement assurées par les femmes. Donc ça veut dire que les femmes ont vraiment une double journée. Ça, c'est pas la spécificité allemande, ça, mais c'est vraiment une inégalité qui persiste et qui est très importante.
Donc on a parlé des inégalités hommes-femmes, mais dans différents domaines, que ce soit dans le monde du travail, de la politique ou de la sphère privée, les femmes ne sont pas non plus égales entre elles.
Et oui, en Allemagne aussi, le milieu social joue sur le devenir des femmes, le niveau d'éducation, la réussite sociale. Par ailleurs, une femme sur sept est victime de violences sexuelles. Le plus souvent, l'auteur de ces violences est connu de la victime, ça peut être un proche, voire son conjoint. Mais les plus exposées aux violences, ce sont les femmes réfugiées.
En fait, la position des femmes réfugiées dans cette histoire est particulièrement précaire, hein, parce que donc aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une politique d'accueil massive par rapport à d'autres pays, des réfugiés en Allemagne. Et donc, ces réfugiés sont logés dans des centres d'accueil, les Heim, mais ces centres sont des plus problématiques pour les femmes, dans le sens où, en fait, elles sont particulièrement exposées aux violences sexuelles dans ce contexte. Le problème, c'est que elles dénoncent pas, elles n'ont aucune prise à ce niveau. D'une part, parce que elles sont victimes tant par les hommes réfugiés que par des hommes allemands. Contre les hommes allemands, mais elles ont peu de droits. Et contre les hommes réfugiés, elles dénoncent pas parce qu'elles ont peur que ça amène à une expulsion du territoire.
À Berlin, un groupe s'est constitué pour aider les femmes réfugiées. Il s'agit de Women in Exile. Composé justement de femmes réfugiées, il va à la rencontre d'autres femmes réfugiées pour les épauler face à ces violences, mais aussi pour les informer sur leurs droits.
Merci Noémie Miro. Nous aurons sans doute l'occasion de reparler de ce projet. C'est la fin de ce magazine. Merci à Alexandra Goebel et Noémie Miro. Vous pouvez nous écrire à français@dw.com. Salut et à la semaine prochaine.
Et je rêve au fond de moi d'avoir des enfants dans les bras. Si je cours au bout du monde, c'est pour rêver de chez moi. Et bien sûr, quand je me bats autant que toi. Je ne baisse pas les bras. Les choses auxquelles je crois. Je suis une femme, tu sais. Et je vis comme une femme, tu sais. Je suis une femme, tu sais. Et j'aime comme une femme, tu sais. Si je danse sur la musique, on me sourit, on pense à quoi? Pas à l'amour platonique. Sûrement pas.